Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, de l'actu, de l'humeur, de la controverse. C'est le menu ce soir encore avec notamment Philippe Cavrivière qui arrive à nous faire rire avec l'actualité et c'est pas facile tous les jours. Rendez-vous avec Philippe à 18h30 et puis bien sûr il y aura du débat avec le monde tel qu'il est, ce sera à partir de 19h. Ce soir avec nous Éric Brunet, Fatima Aziz, Pablo Pio Vivien et Jean-Christophe Alquet qui viendront notamment refaire le match Paris-Province. Autant vous dire que ça promet. Mais avant tout cela, bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres dans l'actualité de ce 9 mars.
Et à la une ce soir, la stupeur, l'effroi après le meurtre d'une adolescente de 14 ans retrouvée morte noyée à Argenteuil. Deux de ses camarades sont ce soir en garde à vue. Dans ce journal également, Dunkerque qui prolonge le confinement le week-end pour 3 semaines de plus. Et puis PSG-Barça, le match retour, c'est demain et ce sera sans Neymar, toujours blessé. Les Parisiens l'ont confirmé aujourd'hui.
Sans Neymar, mais avec Mbappé,
mais
ça
oui.
Devrait bien se passer. La météo, Peggy Broche, ça devrait moins bien se passer. Retour des nuages et de la pluie. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne avec un ciel bien chargé sur les côtes de la Manche. Pas mal de pluie et de vent. Des pluies qui vont toucher en journée les Pays de la Loire, l'Île-de-France jusqu'en Champagne. Dans le sud, ça restera plutôt beau avec des températures qui seront en hausse, en tout cas pour les températures maximales de 9 à 12 degrés au nord jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc Argenteuil, avec ce témoignage glaçant, celui de la maman d'un des deux jeunes en garde à vue après la découverte hier soir du corps de cette adolescente de 14 ans, morte noyée. C'est elle qui a prévenu la police.
Il est rentré, il était 15h, 15h30 avec son ami Johnny. Et il est parti dans sa chambre, il s'est changé. Peut-être une heure après, il est venu me voir vers 17h et il m'a dit « Maman, est-ce que tu as fait des bêtises quand tu étais jeune ?» Je lui ai dit « Oui, tout le monde ». Et je lui ai dit « Pourquoi tu me demandes ça ?» Il n'était pas bien. Alors je lui ai dit « Bah vas-y, dis ». Et c'est là où il m'a dit « J'ai tapé sur Alisha, parce qu'elle s'appelle Alisha, et je crois qu'elle est morte ». Je lui ai dit « Je vais aller voir ». Son ami m'a dit « Non, non, de toute façon, ça ne sert à rien, elle est morte ». Et eux, ils sont partis de leur côté. Moi, je suis partie du mien au quai de Seine. Puis j'ai appelé la police. Quoi. Je me suis dit « Voilà, c'est mon fils, c'est vrai, mais je ne peux pas rester. Je peux pas laisser comme ça. C'est pas possible. Quoi. Après, bah, ça restera toujours mon fils. Hein. Il a 15 ans, il faut qu'il comprenne. Ce qu'il a fait, ça se fait pas. C'est horrible. »
Témoignage glaçant, je vous le disais, recueilli par nos confrères d'M6. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Cette maman assure que son fils, qui a seulement 15 ans, on le rappelle, était jusqu'ici un garçon sans problème, qu'il a sans doute été entraîné par son ami. Que sait-on en l'état de l'enquête ?
Eh bien, la piste avancée par la mère de l'adolescent mis en cause qu'on vient d'entendre, c'est celle d'un triangle amoureux qui aurait, je cite, mal géré la chose. Clairement, ce garçon aurait eu une brève histoire avec la jeune fille de 14 ans qui a été tuée hier avant d'entamer une relation avec celle soupçonné d'avoir participé au meurtre. Du côté des enquêteurs, pas question de s'avancer si tôt sur un mobile, mais les élèves du lycée où étaient scolarisés les trois ados témoignent eux aussi d'un conflit qui serait monté petit à petit sur le réseau social Snapchat. Le couple mis en cause aurait même piraté le compte de leur victime et fait circuler des photos d'elle en sous-vêtements. Une bagarre aurait éclaté au sein du lycée. Toujours selon les élèves, un conseil de discipline devait justement se tenir aujourd'hui à ce sujet. Hier, les trois adolescents se sont retrouvés sur les berges de Seine à l'abri des regards et le drame s'est produit. La victime de 14 ans a été violemment frappée puis poussée à l'eau par le couple adolescent et son corps sans vie retrouvé immergé quelques heures plus tard.
Alice Moreno du service police-justice de RTL et de ce harcèlement dont elle faisait visiblement l'objet. La victime, Alisha, en avait parlé à sa mère notamment et elles avaient même failli porter plainte.
Elle m'a dit « Maman, j'ai des problèmes, des gros problèmes. J'ai été menacée de mort par ce garçon ». Et cette fille aussi, elle a bagarré avec elle une semaine avant. Elle avait une bagarre. Ils étaient très jalouses de elle, qu'elle était une bonne élève et eux, ils n'arrivaient pas. C'était une adorable fille. Elle était aimée par tout le monde, vraiment tout le monde. Avant, elle était d'accord que je vais à la police pour porter plainte. On était assis dans le commissariat, mais elle a entendu qu'on doit attendre 4 heures, 5 heures. Elle a dit « Maman, non, j'ai pas le temps, je dois repartir au lycée. Il y a une très importante évaluation que je dois faire. » J'ai dit « Non, Alisha, l'évaluation, c'est pas important. C'est ta vie. Un jour, quelqu'un va faire quelque chose avec toi et t'es plus là. Qu'est-ce que moi et ton papa, on va faire ?»
Jenny, la maman d'Alicia morte noyée au micro RTL de Nicolas Burnand. Alors les deux jeunes qui fréquentaient le même lycée que l'adolescente sont ce soir, on le rappelle, toujours en garde à vue. Une cellule d'écoute a par ailleurs été mise en place dans l'établissement dès aujourd'hui.
Et on en parlera dans 10 minutes avec François Pupponi, député du Val-d'Oise et ancien maire de Sarcelles. On verra s'il a des propositions à faire pour essayer de mettre fin à ces spirales de violence qui se répètent chez les jeunes. L'autre grand titre ce soir, Amandine, c'est bien sûr la crise sanitaire et le Dunkerquois qui repart donc pour 3 nouveaux week-ends de confinement.
La préfecture a en effet décidé de prolonger la mesure, un mal nécessaire, dit ce soir le maire de Grande-Synthe.
C'est plutôt assez logique de se voir confiner encore 3 week-ends. On a vu que ça avait des effets bénéfiques parce qu'on a pu passer d'un taux d'incidence à 1039, environ 730, 750 aujourd'hui. C'est pas facile pour les habitants de ma ville de Grande-Synthe parce que c'est vrai que ça fait un an que ça dure, les jours rallongent, il fait plus en plus beau, c'est un peu compliqué d'être confiné, mais je le dis, je le répète, c'est effectivement un mal nécessaire.
Martial Beyert, le maire de Grande-Synthe, au micro RTL de Franck Hanson, en région parisienne. L'hypothèse a été clairement écartée ce matin par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, était sur RTL.
Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité.
Deux poids, deux mesures, disent certains élus, dans les zones peu touchées. Certains réclament même une levée du couvre-feu, une territorialisation du dispositif. Denis Grangeau, vous êtes rendu pour RTL à Pau, où le taux d'incidence est l'un des plus bas de France. 43 pour 100 000, c'est 20 fois moins qu'à Dunkerque. Qu'en disent les habitants ?
Oui, Hortense est chauffeur de taxi. Elle se dit surtout solidaire des autres régions où les chiffres sont beaucoup plus compliqués. Pour elle, pas question donc de modifier l'heure du confinement en Béarn.
Pas encore, peut-être pas encore. Je pense que quand tout le monde sera peut-être vacciné, là on pourra faire quelque chose. Après, il ne faut pas être égoïste, c'est sûr que toutes ces grandes villes, le Nord, on souffre pour eux en fait.
Frédéric sort de la boulangerie tout près de la mairie de Pau.
Je pense qu'on est plus sérieux qu'ailleurs.
Pour cette retraitée aussi, les bons chiffres actuels ne doivent surtout pas s'accompagner d'un relâchement.
Parce que moi, on n'a qu'à me dire qu'il y a une région, que le couvre-feu, il est à 21h ou 22h. Je vais partir quelques jours. Ça va amener les gens en vacances, tout ça, en week-end, et puis le Covid reviendra.
Pierre, lui, espère simplement que cette situation va continuer.
On voit que les gestes barrières sont respectés. Peut-être un peu moins en période de vacances où on voit que certains, peut-être citadins, mais dès qu'ils se pensent en vacances, donc automatiquement, ils se libèrent un peu plus.
En tous les cas, à Pau, comme dans les autres villes des Pyrénées-Atlantiques, la campagne de vaccination s'est accélérée et elle pourrait favoriser une nouvelle baisse du taux d'incidence dans les prochains jours.
À Pau, le reportage RTL de Denis Grangeau.
On marque une petite pause. Dans un instant, on retourne au CP. Figurez-vous que les élèves ont rattrapé le retard qu'ils avaient pris lors du premier confinement. Enfin, une bonne nouvelle.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et ça y est, presque pratiquement un an après le début du confinement, les élèves ont, semble-t-il, rattrapé leur retard.
C'est ce qu'indiquent les dernières évaluations menées en classe de CP au mois de janvier. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
Les résultats sont bien meilleurs qu'en septembre.
Oui, les résultats des évaluations à la rentrée avaient mis le doigt sur des lacunes accumulées pendant le confinement, surtout en français et surtout dans les milieux défavorisés. Alors au vu des tests de janvier, ça va mieux. Plus des trois quarts des élèves sont finalement entrer correctement dans la lecture et l'écriture. Si on compare avec janvier de l'année dernière, les résultats sont en légère hausse. Ce qui fait dire au ministre que globalement, le retard est comblé. Les enseignants ont fait leur travail, commente Guylaine David du syndicat SNUIPP au micro RTL de Juliette Jay.
Ce qui est sûr, c'est que les enseignants se sont réellement engagés, mais comme ils s'engagent toujours auprès de leurs élèves. L'hétérogénéité était plus importante au mois de septembre. Ils ont travaillé plus particulièrement avec les élèves qui étaient en difficulté. Apprendre à décoder les mots, les sons, ce sont des choses, des compétences qui sont travaillées de septembre à janvier. Donc forcément, les élèves progressent.
On voit quand même que les élèves les moins favorisés en réseau d'éducation prioritaires ont moins progressé que les autres. Les écarts se sont creusés en français et ils ne se comblent pas en maths. Il faudra évaluer les conséquences psychologiques et sociales de la crise sanitaire sur les élèves les plus fragiles, fait remarquer le SNUIPP.
Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. Le Covid qui risque de perturber nos vies encore un bon moment. Nouvelle illustration ce soir avec les JO de Tokyo prévus, vous le savez, pour le mois
les
de juillet.
Les JO de l'an dernier.
Oui, ceux de l'an dernier, prévus au mois de juillet prochain. Eh bien, ils se dérouleront sans doute sans spectateurs étrangers.
Mais c'est avec ce qu'indique Roger Federer.
Oui, pardon, alors ça, oui. On ne sait pas. C'est ce qu'indiquent ce soir les médias japonais. Rien d'officiel pour l'instant. Mais les Japonais, on le sait, sont très largement favorables à ça, à 77% si l'on en croit les récents sondages.
Bon, c'est encore loin. L'événement sport de cette semaine, c'est du foot et c'est bien sûr le PSG-Barça.
Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Ce sera demain et sans Neymar. Bonsoir Philippe Sanfour.
Bonsoir.
Le club parisien l'a confirmé tout à l'heure.
Exactement, pas de Neymar qui ressent encore une légère gêne aux adducteurs. Aucun risque pris donc, sans affolement, ni excès de confiance non plus après le large succès du match aller 4-1. Le gardien Keylor Navas tente de trouver le juste discours.
On est assez intelligent pour savoir que le Barça reste dangereux. On a confiance en nous, on sait quoi faire pour gagner, mais à aucun moment on ne s'est senti supérieur à Barcelone. On doit encore jouer ce match, 90 minutes et peut-être un peu plus.
Il faut dire que le Barça va mieux hein, depuis le match aller. 4 victoires consécutives, aucun but encaissé. La remontada est-elle plausible? Oui, répond Frankie de Jong, le milieu catalan.
Je pense qu'il faut toujours y croire. Donc oui, on croit qu'on peut renverser le score contre eux. C'est demain qu'il faudra le démontrer. Donc voyons comment se déroule le match. Mais on doit toujours croire en nos chances, bien entendu.
Voilà, le Barça qui espère déjà passer une bonne nuit à l'hôtel, juste derrière la Tour Eiffel. Au match aller, les joueurs parisiens avaient eu droit à un feu d'artifice tiré par les socios catalans devant leur fenêtre. A priori, le couvre-feu devrait sauver ce soir Lionel Messi et ses camarades.
Oui, n'incitez pas les petits malins. Oui,
la remontada, c'est pas indispensable. On l'a déjà connu, on peut faire sans.
C'est vrai. On va faire.
Match à suivre sur RTL demain soir, hein, évidemment.
Bien entendu.
La bonne nouvelle
si vous voulez.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
On peut être payé en regardant ça. Vous connaissez les images ? Oui, Friends, la série. Un site américain, Thomas, écoutez bien, recrute 5 candidats pour visionner et classer les épisodes des 5 premières saisons de la série culte des années 90. Tout ça moyennant 850 euros, 121 épisodes, 45 heures de visionnage, 2679 minutes. Le site West France qui sort l'info a sorti sa calculette, ça fait à peu près 18,50 euros de l'heure. Ah ouais. Pas mal pour voir une série qu'on aime en fait.
Ça marche avec Alf?
Je ne sais pas. Vous aimez Alf?
J'aime Alf.
Ah oui.
Une tendresse.
Vous savez l'imiter ou pas?
Oui. Merci, à tout à l'heure, Amandine. Après le drame d'Argenteuil qu'on évoquait dans le journal à l'instant, François Pupponi, député du Val d'Oise et ancien maire de Sarcelles, est donc l'invité d'RTL Soir tout de suite. C'est en direct.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto.
Il est député apparenté Modem du Val d'Oise. Il a été maire de Sarcelles, socialiste à l'époque pendant 20 ans. François Pupponi est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, François Pupponi.
Bonsoir.
On est sous le choc ce soir après la découverte du corps de cette jeune fille de 14 ans, retrouvée donc noyée à Argenteuil. Elle a été visiblement frappée avant d'être jetée dans la Seine. L'enquête déterminera les circonstances exactes de ce drame. On a entendu les mamans de la victime et de l'accusé, ce jeune garçon qui est ce soir en garde à vue. Et nous, on reste là avec un double sentiment d'impuissance et de désolation ce soir.
Oui, mais il faut savoir qu'avec ces générations, ils sont de plus en plus jeunes, le moindre événement... Là, ça peut être un conseil de discipline. Ils sont pas contents d'avoir été convoqués. On verra si c'est le cas. Mais le moindre événement peut finir avec un mort. Voilà, c'est-à-dire que la vie n'a plus d'importance. Et pour ces très jeunes, c'est des enfants, 13, 14 ans ou des très jeunes adolescents, pour certains, la vie n'a plus aucun sens. On peut tuer quelqu'un, alors sans le vouloir vraiment, hein, parce que moi, le nombre de fois où des jeunes ont donné des coups de couteau et quand je leur disais mais comment tu as failli le tuer, non mais je voulais pas le tuer, voilà, donc il y a un rapport à la mort qui est différent et le passage à l'acte qui est de plus en plus facile et c'est impressionnant, surréaliste, c'est un problème générationnel qu'il faudra un jour qu'on arrive à traiter.
Vous avez presque l'air de ne pas être surpris, comment vous expliquez cette évolution, cette dédramatisation de la mort en quelque sorte?
Je l'explique pas, il y a que des psychologues, des psychiatres qui pourraient l'expliquer, voilà, et pourquoi cette jeune génération a basculé dans le rapport à l'autre fait de violence et fait de rapport à la mort qui n'est plus le même que le nôtre. Voilà, mais je répète, il n'y a que des psychologues ou des psychiatres qui peuvent l'expliquer vraiment. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je le constate, mais je n'arrive pas à le comprendre.
Il y a sans doute un effet loop médiatique ces dernières semaines, mais si on met bout à bout tout ce qui s'est passé, il y a les bagarres mortelles entre bandes, il y a les règlements de compte à coups de revolver entre jeunes, il y a ce drame. Que faire? Quelle doit être la réponse des autorités?
Faut pas les lâcher. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais maire de Sarcelles. Il y a eu 2 morts en 97, des coups de couteau pour une histoire de casquette Lacoste qui avait été volée. Ça m'a traumatisé à vie. Faut pas les lâcher. Le moindre coup de poing, le moindre événement, le moindre conflit entre deux jeunes peut terminer le soir avec un mort. Voilà. Ouais. Donc, il faut le savoir. Il faut que l'ensemble des acteurs, des adultes, soient en éveil permanent. Et que le moindre conflit, il faut le désamorphiser immédiatement. Il faut aller voir les jeunes, il faut aller voir les parents, il faut savoir qu'on est, faut leur faire savoir qu'on est au courant.
Mais quand vous dites qu'il ne faut pas les lâcher, qui ne doit pas lâcher?
Tout le monde.
La famille, les travailleurs sociaux, la police?
Tout le monde. C'est-à-dire l'éducation nationale lorsque ça se passe à l'école, les éducateurs sociaux lorsque c'est en dehors du temps scolaire, prévenir les parents tout de suite qui doivent surveiller, tout le monde. Il faut que ça soit l'ensemble de la société qui, chacun à sa place, soit en veille permanente pour éviter que le petit problème puisse déraper avec des morts.
Parce que vous avez été pendant 20 ans maire de Sarcelles, je le disais, la situation a évolué quand même, s'est dégradée depuis que...
Alors, ça s'est rajeuni. Voilà. Il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, c'était des jeunes de 17, 18 ans qui pouvaient se tuer. Là, on est à 13, 14 ans.
C'est donc des enfants, là.
C'est des enfants. Et qui, souvent, d'ailleurs, reproduisent les conflits de territoire de leurs grands frères. Et parfois, qui durent depuis 20 ans. Ouais. Ils sont toujours en conflit avec le quartier d'à côté parce qu'on leur a dit que c'était comme ça et qu'il fallait se battre. Donc, ça s'est rajeuni. Ouais. Mais la violence est toujours présente, mais c'est de plus en plus jeune et de plus en plus violent.
Mais c'est la faute des réseaux sociaux ou c'est la faute de l'État? C'est la faute des pouvoirs publics?
C'est la faute d'abord aux parents. Enfin, les parents ont une part de responsabilité.
Oui, mais ça fait 30 ans qu'on entend ça.
On le sait bien, mais c'est une réalité. Donc, c'est un peu la faute aux parents. Les réseaux sociaux n'ont fait que décupler le problème. Souvent, là, on le voit encore sur Argenteuil, mais on l'a vu aussi sur Champigny, c'est souvent des conflits sur les réseaux sociaux. On se moque de l'équipe d'en face, on se moque de la bande d'en face. Et le fait d'avoir été moqué sur les réseaux sociaux, ça peut déclencher une bagarre et ça peut déclencher des représailles avec des morts. Là, on a vu aussi que pour la jeune fille qui, malheureusement, est décédée, on avait capté ces captures WhatsApp, qu'on avait mis ça sur les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux, ça décuple, parce que ça jette en pâture des individus.
C'est un catalyseur, en quelque
complètement
sorte.
C'est un catalyseur, et ça jette en pâture. C'est qu'après, tout le monde le sait. Ouais. Quand c'était des conflits entre trois personnes, ça pouvait gérer. À partir du moment où c'est parti sur les réseaux sociaux, bah, là, cette jeune fille, visiblement, était devenue un peu la risée de son école, et ça a fini en drame.
On a beaucoup, et on parle souvent, régulièrement, de ces quartiers, des quartiers. Alors, en l'occurrence, c'est pas un établissement scolaire particulièrement à problème.
Non, tout à fait, une école privée.
Ouais. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites, il y a eu de la rénovation dans ces quartiers. Tout ça sert à rien, ça change rien
non.
Sur le...
Ce que la France a du mal à faire, c'est avoir une politique cohérente pour ces quartiers. On a mis beaucoup d'argent, moi j'étais président de l'ANRU, beaucoup d'argent pour rénover l'habitat, et il y a des réussites exceptionnelles. Parallèlement à ça, on essaie de mettre en place des politiques éducatives. Et là aussi, on a décuplé les classes, on a divisé les classes par deux pour les plus jeunes, enfin, on a fait des choses importantes.
Ça, c'est bien.
Mais à côté de ça, on oublie un peu le travail associatif. Et par exemple, on n'a pas renforcé la présence de la police dans ces quartiers. Donc là où il y avait des dealers, ils sont dans des quartiers neufs, mais il y a toujours des dealers. Et donc, on n'est pas capable de coordonner l'ensemble de l'action publique dans un même domaine. Idem, on a continué à mettre dans ces quartiers les populations les plus fragiles. Donc, on n'est pas capable de coordonner la politique de logement, la politique de sécurité, la politique de rénovation, la politique éducative, de le faire d'une manière cohérente.
C'est-à-dire quoi, qu'on a fait la forme, on a repeint la cage d'escalier, mais on n'a pas fait le fond?
Alors, ben, on fait un peu le fond, mais pas complètement. Ouais. On s'occupe de l'école, mais pas de ce qui se passe le soir dans la rue. On s'occupe de l'école, mais pas de la sécurité. Et ça, on sait pas. Enfin, ça, on sait pas faire parce que chaque ministère reprend sa propre compétence sans se préoccuper d'une politique globale. Et c'est le manque de cohérence de l'action publique qui, en fait, est problématique. Pas la rénovation urbaine, c'est une grande réussite, mais l'absence de cohérence dans l'action publique.
S'il y avait une mesure à prendre dans l'urgence, quelle serait-elle? Vous le savez?
Oui, c'est mettre des adultes compétents partout. Chacun dans les services qui sont les siens, des collectivités locales, de l'État, il faut du monde, des adultes compétents, des adultes référents dans ces territoires, pour que les jeunes ne soient pas livrés eux-mêmes, qu'ils ne soient pas récupérés soit par le trafic de drogue, soit par les réseaux de l'islam radical, parce que tout est en train il y a une nébuleuse qui est en train de s'implanter. Et il faut que les institutions publiques soient présentes dans ces territoires, mais j'allais dire du matin au soir, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Souvent, la présence n'est qu'anecdotique et parcellaire. Et donc là, il faut une présence quotidienne,
de l'humain,
de gens compétents, de gens référents. Il ne faut rien lâcher. Ça prend du temps, ça prend des moyens. C'est difficile, il faut tout le temps repartir au combat, mais il ne faut jamais s'arrêter.
Est-ce que selon vous, François Pupponi, la situation sanitaire, le confinement a pu aggraver les choses ou ce sont vraiment deux choses qui n'ont rien à voir?
Non, les psychiatres nous disent qu'effectivement, les jeunes qui étaient en déshérence ou qui ont des problèmes de comportement décompensent, comme on dit, dans le domaine, dans ce domaine-là. Et donc, il y a des passages-là qui sont plus difficiles. Le trafic de drogue a été perturbé parce que comme il y avait le couvre-feu, par exemple, la police travaille plus. Et donc, il y a des problèmes de trafic de drogue et de récupération de territoire. Donc, bien entendu que le confinement confinement n'a fait qu'aggraver les choses. Et les passages à l'acte sont plus faciles depuis qu'il y a le confinement.
Vous, de ce que vous voyez, de ce que vous connaissez des quartiers de votre circonscription, est-ce que vous diriez qu'il faut alléger ce couvre-feu, qu'il faut alléger un peu les taux, qu'il faut peut-être un couvre-feu plus tard qu'à 18h pour redonner un peu d'oxygène à tout le monde, ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
Ouais, vous savez, globalement, le couvre-feu, pour les jeunes, il n'existe pas, hein, ils sortent. Hein.
Il n'est pas respecté ?
Non. Ils sortent, ils sont dans la rue, ils ont envie de vivre. Voilà, et donc ils ne respectent pas la règle.
Ouais.
Quand on est capable d'aller se battre contre une bande et de ne pas respecter la loi et d'aller éventuellement tuer quelqu'un, le couvre-feu, on n'en a rien à faire. Donc ce sont des jeunes qui vivent un peu en marge de la société. Et donc effectivement, il faut qu'on adapte. Parce que resserrer, ça va être compliqué, mais il faut effectivement permettre à cette jeunesse. Et puis surtout, si on allège le couvre-feu, il faut du monde. Parce que comme le soir, il y a le couvre-feu, les éducateurs ne sont plus là, eux. Mmh. Et donc les jeunes sont seuls dans la rue. Il n'y a plus personne qui s'en occupe. Ouais. Et là, bah, tout est possible.
Dernière question, vous avez signé avec 41 autres députés une tribune qui appelle à la réouverture des restaurants dès le 30 mars. Est-ce que c'est bien raisonnable compte tenu de la situation sanitaire, François?
Non, mais ce qu'on dit à tout le monde, j'ai un cas très présent. À un moment, il faudra bien que ça réouvre. Bon. Et tous les restaurateurs nous disent, d'accord, faut qu'on réouvre, mais nous, faut qu'on nous prévienne un mois à l'avance. Faut qu'on du personnel, etc. Et par exemple, moi, je connais des restaurateurs qui ont embauché et à qui on dit, ah ben, comme vous avez embauché, vous n'avez plus le droit au chômage partiel. Donc, notre annonce était de dire, anticipons les choses. Il faut que ça reparte. Il faut que les gens retrouvent une vie normale, on l'espère le plus tôt possible. Mais faisons-le d'une manière cohérente et intelligente. Et aujourd'hui, on dit aux restaurateurs, on ne sait pas quand ça ouvrira, débrouillez-vous. Et on verra bien plus tard. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il y a des restaurateurs qui vont tout simplement mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont plus aucune perspective.
Merci beaucoup, François Pupponi, d'être venu dans RTL Soir. Merci à vous. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Content de voir que vous êtes déjà là. Vous vouliez nous parler de la fête des grands-mères. Okay, vous êtes un grand sensible.
Oui, dimanche, c'était la fête des grands-mères. Et mauvaise nouvelle, à cause de la vaccination, on n'a désormais plus d'excuses pour ne pas aller voir mamie à l'EHPAD. Enfin, sauf si mamie est décédée. Cela dit, j'adore les seniors, mais il ne faut pas trop s'attacher, car les seniors, c'est comme les hamsters. Ça a une espérance de vie de 3-4 ans maximum.
Vous êtes toujours aussi mignon, vous. Hein. Allez, petite pause.
On les embrasse.
Oui, c'est ça, bah, bien sûr, après avoir tué. Petite pause et après le rappel des titres, on retrouvera Philippe Cavrivière.
Ouais. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et un tout petit peu avant 18h30, le rappel des titres, Amandine Bégaud.
Deux adolescents, un garçon et une fille de 15 ans, toujours en garde à vue ce soir après la mort hier d'une adolescente de 14 ans, morte noyée à Argenteuil. Les proches des enfants mis en cause évoquent un possible triangle amoureux qui aurait mal tourné. Dans l'actualité également, le Covid et le confinement prolongé pour 3 week-ends supplémentaires à Dunkerque et dans sa région. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui la préfecture du Nord, qui indique que la situation s'améliore mais reste toutefois tendue. En Île-de-France, l'hypothèse n'est pas d'actualité. C'est ce qu'a indiqué ce matin sur RTL Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un nouveau conseil de défense est prévu demain à l'Élysée. Et puis PSG-Barça, le match retour des 8e de finale, ce sera demain, de Ligue des Champions bien sûr, hein, demain donc. Mais sans Neymar, toujours blessé, les Parisiens l'ont confirmé aujourd'hui.
C'est tout ?
Oui.
Bah, il manque l'info essentielle.
C'est bien, quoi ?
Bah, Roger qui joue à 16h demain.
Oui, Roger à
contre
16h
Daniel
demain.
Evans.
Et alors nos amis de l'AFP disent, écrivent à l'instant, l'envie oui, les gens aussi pour l'interrogation.
Eh ben on va se désabonner. Oui. Allez, ça suffit, l'AFP. La météo, Peggy Broche, il n'y a pas que dans ce studio que ça se dégrade avec l'arrivée de Philippe Cavrivière, ça va aussi se gâter dans le nord demain.
Exactement, avec l'arrivée d'une perturbation sur le nord-ouest, le ciel sera gris toute la journée. Les pluies vont gagner les pays de la Loire, l'Île-de-France, la Champagne en fin de journée.
À Doha, sur les coups de 16h.
Je crois qu'on va vous perdre, vous, demain, à partir de 16h. Et puis ailleurs, donc, dans le sud, hein, le ciel sera voilé, mais de moins en moins en allant vers le sud-est, où là, ce sera dégagé toute la journée. Les températures, elles seront fraîches le matin, mais en hausse l'après-midi, comprises entre 9 et 12 degrés au nord, jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci, Peggy. Philippe Cavrivière.
C'est ça.
Est-ce que j'ai l'occasion de vous dire la joie et le bonheur que j'ai de vous accueillir dans ce studio 2 fois par semaine ?
Non.
Non, mais attends, c'est normal. Alors hier, on fêtait la journée internationale des droits des femmes et vous me faites dire donc que vous êtes un grand féministe devant l'éternel, Philippe.
Et comment, Thomas ? Et comment ? Dimanche, c'était la fête des grands-mères, donc... à la fête des vieilles, et hier, c'était la journée des femmes, les normales, quoi, les autres. Alors, une seule journée des femmes, ça veut dire que votre journée, mesdames, a autant de poids dans l'année que la Saint-Gérard, par exemple. La Saint-Gérard, c'est un seul jour par an. Et ben, toutes les femmes du monde, vous n'êtes pas plus importantes que tous les Gérards du monde. Voilà. D'ailleurs, notez que les Gérards ont beaucoup moins de revendications que vous. Ils disent pas « Ouais, nous les Gérards, on est payés 20% de moins. Nous les Gérards, on nous met des mains au cul en permanence. Il n'y a pas un mouvement, le gérardisme, avec des manifs, avec des Gérards. Gérard Sanu qui est avec des tatouages sur les nichons, qui gueule en se roulant par terre dans les églises. Bref, les Gérards sont moins auto-centrés que vous, mesdames.
Bon, mais alors, qu'est-ce que, selon vous, Philippe, qu'est-ce que le féminisme ?
Le féminisme est une conquête de souveraineté individuelle. En aucun cas, le tribalisme régressif dont certaines militantes pétries d'idéologies minoritaristes anglo-saxonnes nous offrent le triste spectacle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah non, merde ! C'est Natacha Polony qui a laissé traîner un papier ! Oui ! Ah bah, comme quoi, la femme et l'avenir de l'homme commencent par débarrasser ton bureau et on en rediscute. Alors, perso, ouais, le tribalisme régressif dont certaines militantes... Bah, je trouve ça un petit peu simpliste, Natacha, si vous nous écoutez. Faut bosser un petit peu plus, Natacha. Hein. Allez, c'est le troisième trimestre, on se relâche pas.
On lui passera l'info, c'est promis. Philippe, vous vouliez... Après, vous êtes fâché avec la moitié de l'humanité. Vous vouliez revenir sur l'interview de dimanche soir entre Meghan Merkel et Harry par Oprah Winfrey.
Alors, déjà, qui est Oprah Winfrey ?
Oui.
C'est un peu la Thomas Soto américaine.
Oh là, je vais prendre cher.
En noir. Et en femme. Et en milliardaire. Et en très connu. Bref, ça n'a rien à voir avec vous, Thomas. Donc, arrêtez de tirer la couverture en permanence. Oprah Winfrey, c'est plus un mélange de Michel Drucker et Whoopi Goldberg.
Ouais. Alors, ça, c'est clair.
Meghan est très remontée contre mes mères d'Angleterre. Du coup, elle est en train de foutre une ambiance toute pourrie dans la famille royale. Et si je dis que c'est encore une femme qui fout le bordel, on va bien sûr me taxer de sexisme. Et oh, la journée de la femme, c'était hier. Hein. On est le 9 mars aujourd'hui. On est passé à autre chose. On a arrêté de s'étaler le vernis. On est au boulot, là. Hein.
Bon, Philippe, quand même. J'essaie de vous faire arrêter de déraper. Mais il est beau, ce couple, Harry et Meghan. C'est un couple moderne. Il a tout quitté pour elle.
C'est magnifique. Ça, c'est vrai. Faut saluer le courage d'Harry. Il a quitté le luxe londonien pour tenter de survivre dans le luxe hollywoodien. Ça, c'est le grand saut dans le vide, hein, dans l'inconnu. Puis, il est parti juste avec une main devant, une main derrière et 45 millions d'euros à peine. Ouais. Quel courage.
Ouais. Mais Meghan Markle, ça ne vous a pas échappé, appelle la famille royale la firme.
La firme.
Elle déclare... j'aime bien quand vous répétez ça. La firme. Elle déclare... Il colporte des mensonges et pense qu'on va garder le silence. C'est quand même violent pour la famille royale.
Oui, Thomas, il y a deux choses qui ont fait du mal à la famille royale ces dernières années. C'est Meghan Markle et le pont de l'Alma.
Oh non.
Ben, on peut, ça fait 25 ans.
C'est le tunnel.
Cela dit, c'est vrai que... Non, c'est violent pour Mamie Fluo et pour le prince Philippe. C'est presque un crime de l'allège-majesté.
Ah, ouais, Stéphane.
C'est vrai qu'à 99 ans, les fonctions urinaires retrouvent une certaine forme d'indépendance. Alors, un mot sur Stéphane Bern, oui, après cette brillante imitation. Oui. Car dans l'ordre de succession au trône, il prendrait la place du prince Philippe en cas de décès de ce dernier.
Voilà, c'était une chronique avec Prostamol. Sans transition, on va parler du Covid. L'exécutif envisage d'ouvrir les grands centres de vaccination pour pratiquer des injections en masse sur nos seniors.
On va donc avoir des personnes âgées qui vont faire la queue pour entrer dans une grande salle. Bah, ça va ressembler à un concert de Gérard Lenormand, mais sans la musique. Donc ce sera mieux qu'un concert de Gérard Lenormand.
Oh,
on embrasse.
Oui, c'est pas... Vas-y, embrasse. Une saloperie, un bisou. À propos de vaccin, on va dire un mot de ces soignants qui sont pas très enthousiaste à l'idée de se faire vacciner. Et ça, professeur Cabrières, ça vous met en colère.
Ça, je trouve ça scandaleux, parce que des gens qui refusent de faire sur eux-mêmes ce qu'ils font aux autres, en gros, c'est comme nos politiques avec les lois, ils sont OK pour les voter, mais pour les respecter, après, il y a... Excusez-moi, je viens de recevoir un texto de Pascal Praud qui me dit « J'adore tes raccourcis poujadistes, tu es le Zidane des populistes, je te veux dans l'heure des pros. » Ah bah ça fait plaisir. Bah à bientôt Pascal, merci.
Ouais, bah vous y serez demain matin. Avant que vous nous quittiez pour CNews, quand même, on va dire un mot sur la vaccination de masse. Peut-être dans les stades, on a parlé du Vélodrome, le stade de l'OM.
Ouais, très bonne idée, ça va être sympa, c'est toujours sympa l'ambiance au Vélodrome. Ouais, bienvenue au Vélodrome pour cette rencontre au sommet, ce classico entre Paulette, 86 ans, et le docteur Jérôme Payet, qui n'est autre que l'oncle du célèbre attaquant marseillais, qui va donc vacciner Paulette. Paulette est immobile face à lui, le docteur Payet est très concentré. Ça devrait être un jeu d'enfant, une formalité pour le docteur Payet. Il s'avance, il vise, il pique. Oh là 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 là, le docteur Payet a visé largement au-dessus. Il vient de vacciner Paulette dans l'œil droit. Quelle occasion en or pour les Marseillais. Ici Marseille, à vous Thomas.
Merci, merci Marseille. On finit quand même avec quelques mots sur la ville de Lyon cette fois. Lyon touché par les violences urbaines.
Alors, bien sûr, l'État continue à mettre des amendes à 135 euros aux terroristes de 18h02 que nous sommes, hein, mais reste toujours impuissant devant les voyous qui crament des Twingo dans les quartiers.
Ah bah oui, pardon,
c'est nouveau Pascal Pro qui me dit étonnant. Philippe, t'es vraiment fait pour l'émission. Jacques Séguéla est tombé dans l'escalier. Est-ce que tu peux le remplacer demain matin? Bah écoute, avec plaisir, Thomas. Et c'est pas encore le mercato, je suis demandé de partout, Thomas. Ouais, je ne sais pas si je serai là jeudi.
Ça
s'agite autour de moi.
Je vous confirme que vous ne savez pas si vous serez là jeudi. La Saint-Gérard, c'est le 3 octobre, hein, j'ai regardé.
Ah, 3
voilà,
octobre.
Voilà. Ah bah et puis on a un petit cadeau pour vous.
Voici les clés.
Putain, c'était bien.
Comment tu dis putain, toi? Mais t'es fou. T'es à la radio aussi.
Eh ouais, ben. C'est bien, il en a fait une bien.
Oui, mais c'est bien.
Il y en a moins que Goldman.
Ah.
Il a peut-être moins de tubes que Jean-Jacques.
Ça se joue un chouïa.
un mouchoir de poche, à 130 chansons près.
Allez, demain c'est Valérie
Trier-Veller.
Et vous reviendrez jeudi.
Vous êtes beau
hein.
Derrière ces jonquilles, j'ai l'impression.
Ouais, c'est important.
Dans l'amour est dans le pré.
Institut Curie, une jonquille. Eh ben,
magnifique,
concert.
Ça c'est une belle initiative.
Un petit coucou à l'association Léo que vous parrainez.
Bravo.
Absolument.
Bien enchaîné.
Je vous suis. Allez-vous-en maintenant. Elle publie Instagrammable. C'est un roman, mais c'est aussi un éclairage sur nos sociétés qui préfèrent voir avec nos téléphones plutôt qu'avec nos yeux. Eliette Abécassi, c'est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
Son nouveau roman Instagrammable sort demain chez Grasset. Eliette Abécassi, c'est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Eliette Abécassi.
Merci, bonsoir.
Alors évidemment, pour commencer, je suis allé voir votre compte Instagram. C'est tranquille, hein. Votre dernier message date du 30 novembre et le précédent était du 17 mai. On ne peut pas dire que vous soyez esclave des réseaux. C'est quoi? C'est un choix? C'est une méfiance? C'est une prudence? Ou c'est juste une question de génération?
Alors je vais vous dire, dans Instagram, il y a les voyeurs, voyeurs-suiveurs.
Ouais.
Il y a les influenceurs. Donc moi, définitivement, je fais partie de ceux qui regardent, pas des influenceurs, parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Et ensuite, comme dit ma fille, je suis beaucoup trop vieille pour être une vraie influenceuse.
Oui, on en vient à la question de la génération. Pourquoi ce choix d'Instagram pour votre roman? Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Ce qui m'a inspirée, c'est ceux qui m'ont inspirée, ce sont mes enfants.
Ouais. Vous avez deux ados à la maison.
Oui,
hein.
C'est ça. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, de les perdre parce qu'ils ont basculé dans ce monde d'Instagram, des réseaux sociaux. Et ils étaient happés. Et il y a ce moment, vous savez, des mamans où on va chercher les enfants à l'école, et puis on parle, on raconte sa journée. Et en fait, ils ne voulaient plus parler, ils ne voulaient plus converser, ils voulaient juste regarder Instagram. Et je les ai vus happés par ce flux. Et j'ai voulu comprendre. Et donc, j'ai mené ma petite enquête sur Instagram. Je me suis effectivement abonnée aux influenceuses qui fascinent mes enfants, ma fille en particulier. Et j'ai cherché à voir... quel était leur monde, parce que j'ai eu l'impression qu'effectivement ils évoluaient dans un monde qui avait ses règles, ses codes, ses langages qui n'étaient plus le mien, et je n'arrivais même plus à dialoguer avec eux parce que je n'avais pas ce langage.
Alors vous utilisez pour nous raconter ce monde un personnage qui est une lycéenne qui s'appelle Sacha. Sacha, écrivez-vous, dort le téléphone sur le cœur, se lève le portable à la main, le pose sur le lavabo lorsqu'elle se lave, déjeune le portable sur les genoux, marche la tête penchée, le dos voûté, travaille en répondant à ses SMS, jette un coup d'œil au film en consultant ses applis ou en jouant, car elle aime faire plusieurs activités à la fois. Elle est flippante un peu, Sacha, quand même.
Ben c'est nos ados. On les voit
vous avez les mêmes à la maison,
ça. Ben, je les vois comme ça. Je les vois un peu partout. Hein. Ils sont accrochés à leur portable. Mais nous aussi. Hein.
Ouais.
On ne va pas dire qu'on ne se réveille pas en regardant son portable, comme s'il y avait une nouvelle sensationnelle qui était arrivée pendant la nuit. Donc, on est tous victimes de cet envoûtement, cette addiction. Et il faudrait arriver à quand même le questionner. Et, alors là, c'est un roman. Donc
alors justement,
il y a un côté très
divertissant. C'est un roman ou c'est... on a l'impression que c'est presque un document, presque un essai. C'est presque fait pour répondre aux inquiétudes des mamans, des papas, ou vos inquiétudes.
C'est vrai que c'est pour ceux qui veulent rentrer dans ce monde. Il y a une part enquête dans ce roman, mais c'est très romanesque parce que c'est l'adaptation des liaisons dangereuses aujourd'hui dans le monde d'Instagram. Donc il y a toute une intrigue entre des personnages... Une manipulatrice qui est cette influenceuse qui va avec son ex qui est le Valmont d'aujourd'hui, enfin le séducteur d'Instagram, qui vont manipuler une jeune fille pour avoir un nude.
Une image d'elle nue. c'est
voilà,
ça,
hein, une photo d'elle nue et arriver comme ça à avoir une emprise. Donc il y a tout, c'est une vraie histoire et en même temps, derrière cette histoire, effectivement, il y a un sujet très sérieux qui est la fascination et l'addiction qu'ont nos ados et nous aussi d'ailleurs. Alors dans le monde d'Instagram, c'est vraiment plutôt les ados. Et qu'est-ce que l'on peut comprendre à ça et qu'est-ce que l'on peut en faire pour les sortir de là? Parce que c'est quand même très dangereux. Ce n'est pas en soi mauvais. Il y a de tout.
On le voit,
hein.
Pardon, mais on le voit avec l'actualité terrible du jour. Parce que oui. Ce que vous racontez, ce que vit Sacha avec cette photo de nu qu'elle envoie, etc., c'est aussi, semble-t-il, ce qu'a vécu cette jeune fille à Argenteuil. C'est-à-dire qu'on est là, dans la réalité crue et cruelle de notre époque.
Absolument. Oui, ce fait divers est absolument glaçant. Oui. Non seulement parce qu'il révèle de ce qui se passe sur Instagram, qui paraît être un réseau très sympa et très bienveillant.
Que ça a l'air anodin, tout ça. Ça a l'air plutôt gentil, Instagram. Ça a l'air plutôt.
Instagram est bienveillant, à l'inverse de Twitter qui est mauvais. Mais à travers ces réseaux sociaux, où effectivement il y a du harcèlement, du chantage avec ces photos dont sont victimes les ados et qui peuvent se terminer en véritable drame comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il faut quand même avoir un œil là-dessus, contrôler un petit peu. On peut pas les laisser comme ça se laisser dévorer par l'ogre numérique, là, comme le petit poussé, comme si on les perdait dans la forêt pour s'en débarrasser. Il faut quand même voir ce qu'ils font parce que d'abord, ils ne nous laissent pas rentrer dans ce monde. C'est un monde ésotérique. Ouais. mais les ados ont toujours leur code et leur loi. Ils ont toujours eu ça. Mais pour nous, c'est encore plus impénétrable, donc il faut le comprendre. Et puis, il faut arriver quand même à les sortir de là quand ça devient un véritable enfer, parce que ça peut devenir un enfer.
Peut devenir un enfer. Et puis, c'est pas forcément la liberté qu'ils pensent aller chercher. Sacha, elle est fascinée par les influenceuses. Et vous parlez de Léna Situation qui existe vraiment. Elle a 3 millions et quelques d'abonnés, je crois. En fait, c'est une pub sur pattes, Léna Situation. On a l'impression qu'elle est dupe, Sacha. Elle gobe de la pub en ayant l'illusion d'une liberté qui est très marketée.
Alors c'est vrai que il y a tout un, c'est vrai que c'est de la pub et de la vente avec des partenariats et que ces influenceuses effectivement sont des femmes d'affaires avisées comme la reine des influenceuses Chiara Ferragni qui a 22 millions d'abonnés et qui a une petite entreprise, enfin une grosse entreprise étudiée à Harvard dont le modèle économique est étonnant et donc c'est vrai que ce sont des pubs redoutables qui viennent comme ça capter nos enfants et les faire rentrer dans un système de l'hypercapitalisme à outrance qui vend absolument tout et qui se vend. Et avec ce culte de l'image et qui va pour les enfants, enfin pour les ados à une époque un peu fragile, les fragiliser davantage parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent être absolument parfaites comme Chiara Ferragni ou comme Léna et très bien habillées ou avec certains codes maquillées d'une certaine façon. Donc elles finissent par se ressembler. Toutes.
En fait, ces jeunes veulent avoir leur propre vie, leur propre personnalité, mais c'est une machine à standardiser les gens, en fait, non ? Quand on lit tout ça, on se dit, mais mince, ça abolit les personnalités.
Les influenceuses portent bien leur nom, elles influencent, donc elles donnent des modèles et tout le monde va se conformer à ce modèle, sinon ne pas du tout oser se montrer et rester, ne pas poster parce qu'en fait, ils finissent par effectivement ne plus poster parce qu'ils ont peur de pas être comme aussi bien que ces influenceurs qu'ils regardent. Mais nuit et jour, c'est un flux permanent.
Et vos enfants ont lu Instagrammable ou pas ?
Alors oui, ma fille l'a lu, elle a adoré. Oui, c'est pas le cas de tous mes livres, je peux vous dire. Et je lui ai d'ailleurs dédié ce livre, c'est Capucine, ma star. Et ça prouve que nos ados ont un sens critique et puis sont capables aussi de savoir qu'il ne faut pas se laisser complètement perdre par ce monde de l'influence.
Alors on peut le lire en étant adulte, en étant jeune, on peut lire comme un roman, on peut lire aussi comme un témoignage de notre époque.
Tout à fait.
Ça s'appelle Instagrammable, ça sort demain chez Grasset. Il paraît que ça va devenir un film, c'est vrai ça ?
Oui, absolument.
Quand et avec qui ?
Alors, adapté par une réalisatrice qui s'appelle Sandy Lobry et qui a fait un court-métrage très remarqué et remarquable qui s'appelle s'appelle Influenceuse, justement, et qui est filmée entièrement sur le portable du nado, enfin par le portable du nado. Et on voit pendant 20 minutes, enfin 25 minutes, tout ce qui se passe sur le portable du nado. C'est absolument effrayant et fascinant.
Et qui jouera Sacha, alors, vous savez déjà ou pas?
Ben, on n'a pas encore choisi, pas encore. Mais on va prendre une jeune.
Donc faites des stories, tout ça sur Instagram, absolument. Si vous voulez impressionner Eliette Abécassis, comme ça, peut-être que vous serez retenue. Eliette Abécassis, merci de venir nous voir. Votre livre s'appelle donc Instagrammable, il est publié chez Grasset et il sortira demain. Merci à vous.
Merci à vous.
À bientôt 40 ans, Roger Federer revient donc demain sur les cours, à la quarantaine et la crise qui va parfois avec. C'est le sujet retenu par Julia Molcou dans la culture de l'actu ce soir.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
18h50, la culture de l'actu. Roger va faire... Oui, lui. Va faire... Oh, quel service. Va donc faire... Oh, ce revers. Va faire cette semaine son grand retour sur les cours. Ce sera demain à Doha, bientôt 40 ans. Et ça, Julia, bonsoir.
Bonsoir, Thomas.
Ça vous a inspiré un sujet sur la crise de la quarantaine dans la culture de l'actu.
Oui, bien que Roger Federer soit évidemment très, très loin encore de cette crise de la quarantaine.
Contrairement à vous.
De ce démon de midi. Contrairement à vous.
Vous avez vu chaque été sur les plages ces jeunes gens qui sont dans la fleur de leur âge. Ils jouent au volleyball, ils sautent, ils sont agiles. Or, sauter à 20 ans, ça n'est pas difficile. Mais voilà tout à coup que le père de l'un d'eux, un homme de 50 ans, veut entrer dans le jeu. Ce démon de midi, lui, il est formidable. Il démontre au blanc bec ce dont il est capable. À l'avant, à l'arrière, il donne de la voix. Quand le ballon surgit, il crie... Laissez-le-moi!
Oh, je l'adore! Elle s'appelle Anne-Marie Carrière et dans les années 60, elle a écrit un sketch extraordinaire sur ce fameux démon de midi. Mais savez-vous d'où vient l'expression démon de midi?
Je crois que c'est une mauvaise traduction de l'Ancien Testament.
Non, j'ai lu
mon texte, je savais pas.
C'est exactement ça. C'est une mauvaise traduction d'un passage de l'Ancien Testament qui, dans son psaume 90, verset 6, parle d'une destruction qui exerce des ravages en plein midi. Sauf que de ravage en hébreu, eh bien, on est passé à démon en grec, trois siècles avant Jésus-Christ. Alors d'abord, c'est le démon de l'ennui qui frappe les moines, qui tout d'un coup les éloigne des textes sacrés. Et puis en 1914, Paul Bourget fait migrer l'expression des monastères vers l'adultère, puisqu'il raconte dans son livre « Les démons de midi » les retrouvailles d'un professeur bien sous tout rapport avec son amour de jeunesse. Et voilà, l'expression était lancée.
Tu es une maîtresse.
Qu'est-ce que tu vas chercher là? Est-ce que tu crois que j'ai le temps, moi? T'es la femme de ma vie.
Bah, c'est déjà ça, j'ai pas tout perdu.
Attends... Il a tenu 12 ans.
S'ils vont chercher ailleurs, c'est que chez eux, c'est pas la joie.
Voilà, ça c'était un extrait du Démon de midi avec Michel Bernier qui raconte donc comment Julien, 40 ans passé, quitte Anne, sa compagne, pour une fille plus jeune. Parce qu'avec le temps et l'allongement de la durée de vie, eh ben, le Démon de midi s'est redéfini comme une crise qui touche quand même 10% de la population, qui après 40 ans se sent basculer brutalement de la jeunesse vers la vieillesse et qui à ce moment-là a envie de tout bousculer, voire de quitter sa femme ou son mari pour un conjoint plus jeune, en pensant que ça les empêchera de vieillir. Mais est-ce qu'on a l'air moins vieux quand on s'achète une Porsche et qu'on sort avec une fille de 20 ans? Vous avez 3 heures. Ou alors, vous revoyez Rock'n'Roll.
Heures, hein. Ouais.
Vous revoyez Rock'n'Roll de Guillaume Canet, dans lequel son personnage ne supportait pas l'idée de vieillir et de se faire doubler par Pierre Ninet et Gaspard Ulliel.
Gaspard Ulliel, Pierre Ninet, c'est un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi. Donc.
Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés.
Salut, mon pitou!
Je comprends pas trop comment vous voyez, là, vous vous trompez. Hein.
Elle est bonne, mon amour.
Grégory Caranoni, notre réalisateur qui a choisi de terminer l'extrait sur un P. Je m'en dédouane.
Non, allez, avance.
Bon, allez. Enfin, pour certains, la crise de la quarantaine, bah, c'est pas de leur faute. Dans Crazy Stupid Love, par exemple, le personnage de Steve Carell se fait quitter par sa femme pour un homme plus séduisant et plus charismatique, hein, tant qu'à faire. Bon, faut dire que Steve Carell, dans le film, est du genre un peu pépère à l'ail. Ça fait 25 ans qu'il a raccroché les gants de la séduction et qu'il porte le même pantalon de velours trop grand. Mais ça, c'était sans compter sa rencontre avec Ryan Gosling, qui va lui faire vivre une crise de la quarantaine, dans les règles de l'art.
T'as eu combien de femmes dans ta vie exactement?
Sexuellement?
Non, comme adversaire en breakdance. Je vais t'aider à redécouvrir ta virilité.
Tu peux t'habiller, s'il te plaît.
Ah, pardon.
Voilà, bon. Crazy Stupid Love.
Il y a beaucoup de cinéma, mais est-ce que la musique, la chanson s'est intéressée à cette crise de la quarantaine?
Oui, alors là, on va passer un peu un moment de douceur avec Jeanne Chéral. Parce que Jeanne Chéral lui a carrément consacré un disque, ça s'appelle L'An 40, dans lequel elle saluait, je la cite, « ce beau point d'équilibre entre ce qu'on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir ».
On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente.
Un peu d'espoir pour Peggy et moi. Peut-être que notre crise de la quarantaine dans 10 ans sera très douce,
dans
Peggy.
Vous êtes gentille. Ouais.
10 ans selon la police. Hein, parce que...
bah ça va, oui.
Et selon les organisateurs ?
Oh là. C'est marrant, elle est douce, elle a l'air gentille, elle chante bien, Jeanne Chéral. Je sais pas pourquoi elle était tellement désagréable avec notre Philippe Cavrivière chez Ruquier l'autre soir sur France 2.
Ah bon ?
Ah, c'était fou.
Ah, mais si j'avais vu ça, j'aurais pas passé Jeanne Chéral.
Bah, si, parce qu'elle chante bien quand même. Non, mais elle chante bien quand même, mais j'ai pas compris. Allez.
Il allait peut-être chercher.
On va les réconcilier, on va l'inviter un mardi ou un jeudi, Jeanne Chéral. Comme ça, elle sera face à Philippe. Oh, ils ont bien de mauvais effets.